D'être là parmi vous pour vous présenter ce sujet. C'est deux sujets en fait, puisqu'aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, je vais essayer de vous présenter un panorama de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je suis heureux d'être là parce que c'est la deuxième fois que je viens dans ce local. Et la première fois où je suis venu, c'est un jour que je ne suis pas prêt d'oublier, parce que c'était exactement il y a 15 ans, enfin un peu moins de 15 ans, puisque c'était en juin. C'est le jour où j'ai passé l'oral du CAPES. Voilà. J'étais convoqué un dimanche à 13h au lycée Victor Duruy. Et donc j'ai dormi chez ma sœur et mon beau-frère, David et Marie-Laure Lahutte. Et donc on est vite venu au culte le matin, et on s'est échappé à midi, j'ai été passer mon oral du CAPES, et grâce à Dieu ça a été une réussite. Voilà, alors c'est un bon souvenir pour moi d'être passé ici. Alors, 15 ans après, nous allons parler donc de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il s'agit, si vous voulez, de vous donner une sorte de survol de ces deux grandes parties de la Bible pour essayer d'avoir une vue panoramique. Bon, avec la difficulté qui est à la fois ne pas regarder de trop haut, parce que si on regarde de trop haut, ben on voit rien, et de pas regarder de trop bas, parce que si on regarde de trop bas, ça défile trop vite, et donc il faut arriver à trouver le compromis. Bon, je vais essayer de le faire. Donc c'est surtout le but de vous donner des grands repères chronologiques, éviter de faire des anachronismes complets quand on pense à un personnage de la Bible. Voilà. Alors, pour ce soir, ce sera l'Ancien Testament. Voilà quelques images de l'Ancien Testament. Je pense que tout le monde ici sait que donc l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible, que l'Ancien Testament représente en taille quand même à peu près les trois quarts du texte biblique, environ 1000 pages hein, sur une Bible classique, alors que le Nouveau Testament en représente environ 300. Et que la charnière entre les deux, donc, c'est la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Il faut savoir aussi que Ancien Testament signifie « ancienne alliance ». Donc il s'agit d'une alliance entre Dieu et son peuple élu, qui est le peuple d'Israël. Il est considéré comme le livre saint des Juifs, la Torah, ce que les Juifs appellent la Torah. Et puis donc il a été intégré dans la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui, de manière définitive, on peut dire, au IVe siècle, lorsque saint Jérôme a rédigé la Vulgate, enfin pas rédigé, mais a compilé la Vulgate. Les chrétiens, même si c'est le livre saint des juifs à l'origine, lui donnent une double valeur, on peut dire, à la fois une valeur historique, dont nous croyons que les faits racontés dans l'Ancien Testament sont des faits réels, même si quelquefois peut-être le style est un petit peu allégorique, littéraire, donc poétique, ça c'est possible, mais enfin, les événements qui sont décrits nous les prenons comme vrais, et puis également une valeur doctrinale. Mais là, attention, très important, lorsqu'un chrétien lit l'Ancien Testament, il va toujours le lire à la lumière du Nouveau Testament, ce qui fait que bien souvent, il va faire une lecture symbolique, une lecture au second degré de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'est, on va dire, au moins 4000 ans d'histoire, peut-être beaucoup plus si on compte le temps de la création. Je vais vous raconter ça en moins d'une heure. J'ai calculé, hein, moi je suis du sud-ouest, hein, ça fait comme si je vous racontais un match de rugby en 0,1 millième de seconde. Donc on ne peut pas tout raconter, hein, donc on va être obligé d'aller rapidement. Alors voici mon plan. Déjà l'aspect chronologique, histoire, 40 siècles d'histoire, avec 8 grandes époques. Puis on va prendre les livres, pas en détail, mais un petit survol de tous les livres de l'Ancien Testament, 39 livres. Ensuite, on va s'intéresser à un aspect particulier qui m'est cher, ce sont les dispensations, donc une manière de lire la Bible sous l'angle des dispensations. Et puis, on l'a évoqué dans la prière, bien sûr, les Écritures en témoignage du Seigneur Jésus, donc on verra quelques exemples de passages de l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Messie, et donc la venue du Seigneur Jésus. Voilà, donc nous commençons par la partie historique, donc un survol de plus de 40 siècles d'histoire. Donc déjà, quelques jalons pour se repérer. Je vous propose 7 ou 8 jalons, qui pour moi sont des événements clés de l'histoire de l'Ancien Testament. On va commencer donc par le commencement, c'est-à-dire la création. Ensuite, on va parler du Jardin d'Éden, donc Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Alors, j'ai mis 4004 ans avant Jésus-Christ, ça c'est si on suit une chronologie biblique rigoureuse, en admettant que chaque fois qu'il est dit « il engendra », ça veut dire que c'était son fils, mais on sait que ça peut être aussi son arrière-petit-fils, etc. Donc, je mets les dates entre guillemets, faut pas être trop fixe si on parle des dates de l'Ancien Testament, en tout cas avant Abraham, hein, me semble-t-il. Ensuite, Noé et le déluge, environ 2300 ans avant Jésus-Christ. Événement important, l'appel d'Abraham, donc Dieu appelle Abraham. Également, un événement important, c'est Moïse et l'Exode, donc la naissance du peuple d'Israël. Puis vers 975 avant Jésus-Christ, on est à l'apogée du peuple d'Israël avec Salomon. Et malheureusement, ensuite, c'est le déclin avec en 607 l'exil de Juda qui marque, on peut dire, la fin de l'histoire du peuple d'Israël souverain sur son territoire. Et puis donc, l'Ancien Testament va prendre fin avec la rédaction du livre de Malachie, environ 420 avant Jésus-Christ. Et là, il y aura un grand silence de 420 ans jusqu'à la venue du Messie qui nous est raconté dans les évangiles. Voilà, ça c'est un peu des jalons. Et ensuite, donc, je vais vous décrire des périodes qui se situent entre ces repères. Donc voilà, 8 époques que je vais essayer de vous décrire assez rapidement. On commence par la première époque, c'est la création. Donc, du commencement de la création, hein, le début de la matière, on peut dire, jusqu'à la vie de Adam et Ève en Éden, dans l'innocence. Alors, le premier jour, il nous est raconté que Dieu crée les cieux, la terre, la lumière. Le deuxième jour, il va créer l'atmosphère, ce qui va séparer les nuages, c'est-à-dire les eaux gazeuses, de la mer, donc l'eau liquide. Troisième jour, les continents sont séparés des mers, peut-être un continent séparé des mers au départ. Et puis, apparition des végétaux également, toujours le troisième jour. Le quatrième jour, apparition des luminaires. C'est-à-dire que le soleil, la lune et les étoiles deviennent des repères pour marquer le temps vu de la Terre. Personnellement, il ne me semble pas que c'est à ce moment qu'ils ont été créés. Hein. Le verbe « bara », créer, c'est le verbe « il fit », et puis « il fit pas les astres », il fit des luminaires. Donc les astres prennent un aspect de luminaire à partir de ce moment-là, semble-t-il, sous l'effet de la purification de l'atmosphère. Donc les astres deviennent visibles. Ensuite, le cinquième jour, ce sont les animaux marins qui sont créés, puis également les oiseaux. Sixième jour, les reptiles, les mammifères et enfin l'homme. Et puis le septième jour, Dieu se repose et donc Adam et Ève vivent au jardin d'Éden avec pour seule mission de le cultiver. Je ne me prononce pas sur la durée exacte de ces jours, peut-être pas 24 heures, peut-être une très longue période, peu importe. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est l'ordre des événements et le fait que le but de cette création, c'était de placer l'homme dans les conditions idéales. On passe à la deuxième étape, ce que j'ai appelé l'Ancien Monde. Alors ça va aller depuis la chute, on peut dire, de Adam et Ève jusqu'au déluge au temps de Noé. Alors Adam et Ève ont reçu l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ils vont être tentés par le serpent, ils désobéissent, ils attirent sur eux la malédiction, et donc ils sont chassés du paradis terrestre. Un peu plus tard, leur fils aîné, Caïn, va tuer Abel, son cadet. À partir de là, des générations vont se succéder. Je mets toujours des dates entre guillemets, et on a ces longs chapitres où il est dit il engendra, peut-être que c'était le fils, peut-être que c'était l'arrière-petit-fils, on a des cas comme ça où c'est manifeste dans la Bible, dans la généalogie de Jésus, lorsqu'il est dit il engendra, quelquefois il s'agit de son petit-fils. Donc les hommes vivent très longtemps, le record est détenu par Mathusalem ou Methuselah, avec 969 années. Bon, je n'ai pas d'explication à cette longévité exceptionnelle. Il y aura aussi Enoch, qui lui ne va vivre que 300 ans, mais va être enlevé au ciel à cause de sa piété. Mais peu à peu, la violence, les excès, l'idolâtrie dominent le cœur des hommes. Et donc, ils vont attirer la colère de Dieu. Et donc, Dieu veut en terminer avec l'homme. Il va donc envoyer le déluge, mais il va épargner Noé et sa famille, et puis aussi les animaux, grâce à l'arche de Noé. Et donc, c'est la fin de ce qu'on pourrait appeler l'Ancien Monde. Troisième période, l'après-déluge, depuis le déluge jusqu'à l'appel d'Abraham. Donc Noé sort de son arche, les hommes repeuplent la terre. Au début, ils parlent le même langage, mais leur orgueil va les pousser à construire une tour, la tour de Babel. Dieu va alors les confondre dans leur langage et les disperser. Et puis, vers 1920 avant Jésus-Christ, Dieu va se révéler à Abraham et l'appeler à quitter la ville idolâtre de Ur, donc en Chaldée où il habitait, pour une destination inconnue, qui se révélera être le pays de Canaan, c'est-à-dire la Palestine. Alors voici son trajet, donc il suit un peu la direction du croissant fertile, en partant de l'est vers l'ouest, et donc il va se diriger vers le pays de Canaan, avec la promesse d'avoir une nombreuse descendance et d'être béni par Dieu. Il va construire un autel à l'Éternel et l'adorer. Il faut préciser que Abraham est un descendant de Sem, un des fils de Noé, d'où le mot « sémite », et puis qu'il est aussi un descendant de Héber, qui est entre Sem et Abraham, si vous voulez, d'où le mot hébreu. On passe à la quatrième période, c'est l'époque des patriarches. Donc, de l'appel d'Abraham jusqu'à l'Exode. Alors maintenant, j'ai enlevé les guillemets, les datations là sont un petit peu plus certaines, parce qu'on a des repères chronologiques assez nombreux. Donc, après l'appel d'Abraham, les promesses vont être confirmées à Isaac, à Jacob, qui sont son fils et son petit-fils. C'est ce Jacob que Dieu va renommer Israël, c'est-à-dire prince de Dieu. Cet Israël, Jacob, va avoir 12 fils qui vont former les 12 tribus d'Israël. Et on peut dire que là, le peuple d'Israël est né, même si pour l'instant, il n'a pas de territoire. Bon, ensuite, l'un des fils de Jacob, Joseph, va être vendu par ses frères, il va finir en Égypte. Et donc, le peuple israélite naissant, on peut dire, va résider en Égypte, pendant à peu près 400 ans. Peu à peu, il va être asservi par les Égyptiens. Et donc, vers 1275 avant Jésus-Christ, va se lever un libérateur qui est Moïse. Celui-ci va entraîner Israël vers Canaan, en traversant la mer Rouge. Bon, auparavant, il y a eu des 10 plaies d'Égypte, puisque le pharaon refuse de laisser partir le peuple. Mais la dernière plaie sera que tous les premiers-nés d'Égypte vont être tués. Et à cette occasion, les premiers-nés israélites vont être protégés, quant à eux, par le sang de l'agneau, l'agneau pascal, donc c'est l'institution de la Pâque, avant la sortie d'Égypte, que Dieu a ordonné de sacrifier dans chaque maison. Donc c'est la première Pâque. Voilà, les plaies et la première Pâque avant l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte. Et là, nous terminons la quatrième période. On passe à la cinquième période, ce que j'ai appelé l'émergence d'Israël, c'est-à-dire depuis l'exode jusqu'à l'apogée du peuple d'Israël au temps de Salomon. Alors, première chose, il faut sortir d'Égypte. Donc voici une carte de la région. Les Israélites sont en Égypte, vous suivez les flèches, donc ils vont traverser la mer Rouge, ils arrivent au mont Sinaï, où ils vont recevoir de la part de Dieu les tables de la loi, donc les 10 commandements, plus de nombreux autres commandements. Dieu va ordonner aussi à Moïse de construire le tabernacle, c'est-à-dire une sorte de cabane, de lieu de culte démontable, qui va suivre le peuple d'Israël pendant ses voyages. De là, à partir du Sinaï, les Israélites repartent vers le nord, ils arrivent jusqu'à Kadesh Barnéa. Là, ils sont sur le point d'entrer dans le pays, mais suite à plusieurs événements, Dieu va les châtier, et donc va les faire tourner en rond pendant 40 ans, à peu près dans le secteur de Kadesh Barnea, enfin entre Kadesh Barnea, si vous voulez, et Etzion Geber, qui se trouve au bout du golfe d'Aqaba. Donc vous voyez, c'est des flèches circulaires, hein, ça va durer pendant 40 ans. Alors nous, on ne va pas s'arrêter 40 ans, on va continuer. Donc les 40 ans se passent, le peuple d'Israël tourne en rond, on peut dire, il va de campement en campement. Et après les 40 ans, ils vont repartir, mais ils vont contourner Edom, qui constitue une opposition. Ils vont donc passer par le sud, par Etzion Geber, vous voyez, ils vont passer derrière Edom. Et par Moab, ils vont arriver jusque au Jourdain. Et donc là, la traversée du Jourdain, donc au temps de Josué, qui a pris la suite de Moïse, constitue l'entrée dans la terre promise. Donc là, on est déjà dans le livre de Josué. Ils vont donc conquérir le pays de Canaan au prix de nombreuses batailles, la plus célèbre étant sans doute la première, c'est-à-dire la bataille de Jéricho, avec les murailles qui s'effondrent au son des trompettes. Donc c'est après ces 40 ans, 40 ans après la sortie d'Égypte. Puis c'est l'époque des juges. Des juges vont se succéder, il y en aura 12, on peut rajouter un 13e, mais c'est un usurpateur, donc on peut pas, il n'est pas tellement compté. On peut considérer aussi que Samuel est un juge, mais son histoire n'est pas dans le livre des juges. Donc 12 à 14 juges, si vous voulez, dont les plus connus sont Jephté, Gédéon, Déborah aussi, qui était une femme. Après le livre des juges, ça va être le livre des rois. Ça, c'est une image de Samson, hein, bien connue. L'homme qui avait une force surhumaine. Le livre des rois, donc premier roi, ce sera Saül. Puis sera suivi de David, qui va se rendre populaire suite à sa victoire sur le géant des Philistins, qui était Goliath. Donc, en fait, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il va supplanter, il va remplacer très vite Saül. Il va asseoir sa souveraineté en Israël, en Palestine. Et donc, il va laisser à son fils Salomon un pays apaisé qui va s'étendre de la mer Rouge jusqu'à l'Euphrate. Alors, on va regarder d'un peu plus près ce territoire. Le voici, vous voyez, du torrent d'Égypte ou bien, si vous voulez aussi, du golfe d'Aqaba jusqu'à l'Euphrate, c'est-à-dire bien avancé en Syrie. Alors, il faut bien avoir cette carte à l'esprit. On comprend beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en Palestine. Hein. Le Grand Israël, c'est ça. Voilà. Donc, beaucoup d'hommes politiques israéliens, leur objectif, c'est ça, d'être souverain. C'est vrai qu'il n'y a pas la bande de Gaza, il n'y a pas non plus les côtes du Liban, mais enfin, tout le reste, c'est quand même, ça fait partie de ce dont rêve tout Israélien sioniste, on peut dire. Salomon va aussi construire le temple, donc le temple en place de tabernacle. Il s'agit d'une sorte d'habitation définitive pour Dieu. Donc vous avez là un schéma du temple, bon, avec le sanctuaire, hein, beaucoup plus haut que le reste du bâtiment, et puis différents parvis pour les hommes, pour les femmes, pour les gens des nations. Je passe rapidement. Ensuite, ce sera le déclin. Un déclin progressif. Déjà, ça va commencer à la mort de Salomon, parce que la succession de Salomon va poser problème, parce qu'il va y avoir une rivalité entre Roboam, donc qui est le fils de Salomon, et Jéroboam, qui est un de ses anciens ministres. Et donc ça va entraîner une division du pays en deux moitiés, avec ce qu'on appelle Juda au sud, mais en fait qui comprend la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, et ce qu'on appelle Israël au nord, avec pour capitale Samarie, et qui contient donc les 10 autres tribus. Voilà, donc vous avez Juda au sud avec Jérusalem, deux tribus, et puis Israël au nord, avec Samarie pour capitale et les 10 autres tribus. Et donc ensuite, ce sont deux lignées de rois différents qui vont se succéder. Alors ça nous est raconté dans le livre des rois, dans le livre des chroniques. Plus ou moins compétents, plus ou moins pieux. Jusqu'au jour où les Assyriens, alors nous sommes déjà en 730 avant Jésus-Christ, vont écraser Israël, c'est-à-dire la partie du nord. 730 avant Jésus-Christ. Et puis un peu plus tard, ce sont les Babyloniens qui vont à leur tour assujettir Juda, donc le sud du pays, à partir de 607. Et donc Jérusalem sera détruite 20 ans plus tard, en 587 avant Jésus-Christ. Le temple, par la même occasion. Donc les deux territoires du pays se trouvent occupés et les deux peuples déportés. C'est à cette époque que vont parler la plupart des prophètes. Hein, autour de l'exil. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais c'est autour de cette période de l'exil. Donc pour exhorter les Juifs à se repentir. Daniel, lui, va se retrouver parmi les exilés, hein, les déportés, donc il va se retrouver à Babylone. Et donc c'est là qu'il va courageusement résister à l'idolâtrie, et ce qui lui vaudra en particulier d'être jeté dans la fosse aux lions. Donc, on connaît cette histoire. Donc les prophètes, et puis certains récits qui nous sont rapportés, comme l'histoire de Daniel.
au temps de Babylone.
Alors nous entrons dans les temps de l'exil. Donc je l'ai dit, 607, c'est l'exil de Juda, c'est-à-dire c'est la fin, hein, c'est la fin de toute souveraineté pour les Juifs. Mais en 537, donc c'est 70 ans après l'exil de Juda, l'empire babylonien va être renversé par les Perses. Alors ça c'est un tournant, parce que le roi de Perse, qui est Cyrus, va se montrer clément avec les Juifs. Et donc comme Jérémie l'avait annoncé, hein, il avait dit que 70 ans après l'exil, Israël reviendrait. Eh bien, un petit groupe de fidèles mené par Zorobabel va revenir pour construire le temple de Jérusalem. Donc ça, c'est en 537. Ça va prendre du temps. Le temple sera achevé à peu près vers 516. Ce qui coïncide aussi avec 70 ans après sa destruction. Vous voyez, on revient 70 ans après l'exil et le temple est reconstruit 70 ans après, est achevé 70 ans après sa destruction par les Babyloniens. Ensuite, on a l'histoire de Esther, hein, c'est 50 ans plus tard. On continue avec le roi de Perse, un des successeurs de Cyrus, qui va s'appeler Xerxès Ier, que la Bible appelle Assuérus, va épouser une juive, Esther, ce qui va être l'objet d'une grande délivrance pour les juifs. Puis le successeur de Xerxès, qui s'appelait Artaxerxès, va permettre aux juifs, un autre groupe de juifs, de revenir à Jérusalem pour reconstruire la ville cette fois-ci. Donc il y a eu le temple dans un premier temps, au temps de Zorobabel, maintenant il s'agit de reconstruire la ville, sous l'autorité de Néhémie, et d'Esdras aussi. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'Israël est soumis, bien sûr, mais connaît quand même une paix relative. Et voilà, le temps se déroule, on arrive très très vite, vous voyez, à 420 avant Jésus-Christ, c'est le dernier prophète, hein, c'est Malachie. Bon, alors la suite ne nous est pas racontée. Bien sûr, il y aurait des textes profanes pour nous la raconter, mais dans la Bible, rien qui soit retenu dans le canon juif, ni dans le canon chrétien. On a quand même des récits à caractère prophétique dans le livre de Daniel. Parce que Daniel a fait une prophétie, du moins en se basant sur le rêve. Alors vous voyez, on va aller comme ça du silence des prophètes jusqu'à la naissance du Messie. Dans le rêve de Nabucodonosor. Bon, on va l'appeler Nabucco, hein, pour faire simple. Donc ce Nabucco a vu une statue. Il a vu aussi des animaux. Alors on va plutôt interpréter la statue. Les deux interprétations sont semblables. Donc il voit une statue avec une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre et des cuisses d'airain, des jambes de fer et d'argile. Et Daniel lui explique que ce sont quatre royaumes qui vont se succéder. Daniel lui dit, la tête d'or c'est toi, c'est Babylone. Ensuite il va y avoir un deuxième empire, moins puissant, et donc là il annonce l'empire médo-perse avec Cyrus et ses successeurs. Et alors ensuite, il annonce des choses qui sont beaucoup plus lointaines par rapport à Daniel. Il dit ensuite qu'il y aura un ventre et des cuisses d'airain. Et alors d'après la description qui est faite plutôt par rapport aux animaux, on voit que c'est un empire qui va s'installer à une très très grande vitesse. Et donc c'est la venue de l'empire grec d'Alexandre, qui en quelques années va dominer tout le pourtour méditerranéen. Et puis ensuite, il y aura un quatrième empire avec des jambes de fer et d'argile. Alors c'est un empire qui écrasera tout, qui aura des faiblesses et qui verra naître le roi des rois. Et là, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'Empire romain. À l'Empire romain qui va ensuite dominer à son tour le Moyen-Orient à partir de 63 avant Jésus-Christ. Donc la prophétie va s'accomplir, hein, 330 avant Jésus-Christ. Eh bien, le jeune empereur Alexandre le Grand va faire ses conquêtes. Ensuite, bon, son royaume, ça va être divisé, mais ce sera quand même une domination grecque sur le territoire, en tout cas d'Israël, jusqu'à ce que les galères romaines de Pompée ne viennent les supplanter cette domination vers 63 avant Jésus-Christ. Donc voilà, le troisième et le quatrième empire de Daniel apparaissent, et c'est là que naîtra le roi des rois, nous dit la prophétie. Alors vous voyez, ce Daniel qui avait vécu quand même en 600 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il a, on peut dire, prédit la suite de l'histoire en terre de Palestine jusqu'à la venue du Messie. Donc le Messie va naître peut-être pas en l'an 0, on pense que maintenant que c'est plutôt en moins 4 ou moins 5, puisque Denis le Petit, qui a fait le calendrier chrétien, semble s'être un peu trompé sur les dates, c'est pas grave, hein, mais enfin, maintenant on le sait, il faut faire un petit décalage de 4 ou 5 ans. Voilà. Alors on a fait l'aspect historique, je vous propose une petite pause, puisqu'on a parlé de la venue du Seigneur Jésus, peut-être que vous connaissez ce cantique, on peut le chanter.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
donc on a passé l'aspect historique, hein, on a fait un survol de l'histoire de l'Ancien Testament, maintenant on va s'intéresser un peu aux livres. Alors je ne peux pas entrer dans les détails de chaque livre, hein, c'est pas possible, mais déjà vous donner un petit aperçu. Donc déjà, une classification des livres de l'Ancien Testament. On a 17 livres historiques, alors ils sont classés dans cet ordre, hein. Tout d'abord 17 livres historiques, ensuite 5 livres de sagesse, et puis ensuite 17 livres prophétiques, ce qui nous fait un total de 39 livres. Si on regarde les 17 livres historiques, ils sont classés dans l'ordre chronologique, pas tout à fait, mais presque. En tout cas, les 5 livres de Moïse le sont, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, c'est pas tout à fait dans la chronologie, je vais y revenir. Puis vous avez les 5 livres de sagesse classés dans l'ordre chronologique, avec à la fin 3 livres de Salomon, Proverbes, Ecclésiastes, Cantiques. Et puis les 17 livres prophétiques, classés entre les grands et les petits. Donc je l'ai dit, tous écrits à peu près entre le 9e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez à peu près 800, quand vous dites 800 à 400 et quelques, on a fait le tour des livres prophétiques. C'est quand même assez regroupé, hein, les livres prophétiques. Alors il y a les grands et les petits. C'est pas très facile de dire exactement quelle est la limite de grands et de petits. Je dirais globalement dans une Bible en français à peu près 12 pages. Plus de 12 pages c'est un grand, moins de 12 pages c'est un petit. Hein, on va dire ça comme ça. Donc les grands, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, qui va avec Jérémie, hein, Ézéchiel et Daniel, et puis les petits, Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Question, comment sont classés les petits prophètes? C'est pas vraiment par ordre chronologique. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a deux paquets, en fait, qui sont tous les deux par ordre chronologique. Vous voyez ici la première ligne, Osée, Joël, Amos, Abias, c'est chronologique. Alors, je suis tenté de les appeler les moyens prophètes. Et après, c'est à nouveau chronologique, mais on revient en arrière. Et ceux-là, c'est les tout petits à ce moment-là. À partir de Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Voilà. Il me semble que c'est un peu les moyens et les tout petits. D'autres disent que c'est une alternance entre ce qui venait de Juda et d'Israël, mais je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. Peut-être deux paquets chronologiques avec les considérés comme moyens et les considérés comme petits, mais j'ai cherché même sur des sites judaïques. Et je n'ai pas réussi à trouver l'explication ultime de cette classification des petits prophètes. On va essayer de regarder un petit peu, quand même, chaque livre assez rapidement. On commence par les livres historiques et par le Pentateuque. Donc, 5 livres de Moïse. Bon, là, je ne vais pas tout passer en revue, vous avez ça dans le cahier. Hein. Je vous ai mis en bleu ici ce qui n'est pas vraiment historique. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est des légendes, mais c'est que ce n'est pas des récits historiques. C'est-à-dire que c'est des textes de loi en particulier. Hein. C'est un style législatif. La loi, le tabernacle, les offrandes, les sacrificateurs, les fêtes, les lois sanitaires et civiles, tout ça, ce n'est pas des événements, c'est des prescriptions. Mais on a quand même une partie historique dans la Genèse, 100%. Exode, une bonne partie. Lévitique, non. Pas de récit. Nombre, tout le début du livre des Nombres, c'est la suite de l'Exode, si vous voulez. Et puis Deutéronome, pas vraiment de récit historique, c'est un grand récapitulatif à la fin de la traversée du désert. Vous voyez donc, livre historique, mais pas tant que ça, pour ce qui concerne le Pentateuque. Ensuite, les autres, 12 autres. Le livre de Josué, c'est la suite de l'Exode, donc la conquête de la terre promise, la répartition du pays aussi entre les 12 tribus. Puis c'est le livre des juges, donc les successeurs de Josué, qui seront au nombre de 12, plus Samuel, donc Israël va être sans cesse menacé, la conquête est toute fraîche, bon, ils sont menacés par les peuplades qui sont là, qui ont été un peu aussi poussés de là où ils étaient, donc c'est pas facile. Il y a entre-temps le récit de Ruth, donc c'est au temps des juges, donc c'est une petite histoire au temps des juges. Puis, vous voyez, la chronologie, elle n'est pas exactement comme dans la suite des livres. Si vous prenez 1 et 2 Samuel, puis 1 Chronique, vous avez une suite chronologique. Samuel, Saül, David. Et la suite, vous allez la trouver dans 1 et 2 Rois, et puis en parallèle dans 2 Chroniques. Donc là, c'est Salomon, et puis les rois d'Israël, il y en aura 18, et les rois de Juda, il y en aura aussi 18 jusqu'à l'exil. L'exil d'Israël, l'exil de Juda. Bon, après vous avez Esdras, donc j'en ai parlé, là c'est le retour sous Zorobabel, la reconstruction du temple, avec Esdras qui revient aussi avec eux. Un peu plus tard, c'est le retour de Néhémie, cette fois-ci pour reconstruire la ville, les murailles de la ville, et avec en même temps un réveil spirituel, sous l'impulsion de Esdras. Et puis encore un peu plus tard, au temps des rois de Perse, donc le livre d'Esther avec cette jeune fille juive qui va épouser l'empereur. Donc là, on en a terminé avec les livres historiques. On passe maintenant au livre de sagesse. Alors, Job, on pense que c'est un très ancien livre. Hein. On a des indices au début du livre pour montrer que ce Job vivait au temps d'Abraham. Et on pense même que c'est le plus vieux livre de la Bible, puisque c'est avant Moïse. Donc c'est la rédaction la plus ancienne. 1920 avant Jésus-Christ. Moïse, c'est 1200-1300. Donc Job, ce sont les épreuves d'un juste, des réflexions sur la souffrance et la souveraineté de Dieu. Ensuite, le livre des psaumes, rédigé au temps de Salomon, mais avec des psaumes de divers auteurs, écrits par David, pour la moitié d'entre eux, 73, Asaph, 12 psaumes, les fils de Corée, 12, Salomon, 2 psaumes, Moïse, 1, Étham, 1. Voilà, divers auteurs, mais quand même la moitié écrit par David. Le livre des proverbes, donc écrit par Salomon, des paroles de sagesse pieuses, j'ai qualifié de pieuses, parce que toujours en relation avec Dieu, écrites par donc Salomon pour la plupart, les 90% du livre, mais quand même un chapitre ensuite écrit par Agur et un autre par Lémuel. Puis c'est l'Ecclésiaste, que j'ai qualifié plutôt de paroles de sagesse humaine. Bon, entre guillemets, hein, c'est quand même un texte inspiré, mais c'est beaucoup plus sous le soleil, hein, selon l'expression de l'Ecclésiaste. Il y a aussi des choses qui relèvent du bon sens, de la philosophie aussi un peu, mais quand même tout ça sous le regard de Dieu. Écrit par Salomon. Et puis le Cantique des Cantiques, donc l'idylle de Salomon et d'une Sulamite, donc une habitante de Sulem, visiblement. Donc c'est en même temps une allégorie de l'amour de Dieu pour son peuple, et bien sûr pour nous, de Christ et son Église. Ensuite, il y a les livres prophétiques. Évidemment, je ne peux pas rentrer dans le détail des livres prophétiques. Je vais quand même essayer de les situer chronologiquement. Donc, je l'ai dit, c'est autour de la période de l'exil. Et il va y avoir quatre vagues, on peut dire, de prophètes. Vous avez ceux qui sont antérieurs à l'exil. Jonas, Osée, Joël et Amos. Donc, vous voyez, ça commence à peu près vers 800 et quelques avant Jésus-Christ. Et ça va se terminer, donc là, en 730, avec l'exil d'Israël, pour ceux qui sont vraiment antérieurs à l'exil. Mais ça, c'est une classification à moi. Hein. Dans le canon, ils ne sont pas du tout classés comme ça. Ils sont classés entre grand, moyen et petit, visiblement. Et après, chronologique. Ensuite, deuxième vague, ceux qui précèdent de peu l'exil, de Juda, en tout cas, puisque l'exil d'Israël est déjà fait. C'est entre les deux exils, si vous voulez, avec Ésaïe et Jérémie en particulier. Puis, ceux qui sont dans la période de l'exil, c'est-à-dire que Juda est exilé, il n'y a pas eu les retours encore, donc Ézéchiel, Daniel et Abdias, et puis ensuite ceux qui sont postérieurs à l'exil, donc Agé, Zacharie et Malachie. Alors j'ai fait des tableaux bien sûr hein, sur ces prophètes, mais je renonce totalement à rentrer dans tous ces détails, vous avez tout ça dans les cahiers. J'ai essayé de faire un résumé à chaque fois du message principal de ce prophète, et aussi en notant toujours au début à qui il s'adresse. Hein, ça peut s'adresser à Juda, à Israël, mais aussi à d'autres peuples comme Ninive, par exemple, ou comme un peu plus loin, Édom. Donc ça ne concerne pas forcément le peuple d'Israël. Voilà, alors là je ne rentre pas dans les détails, ce serait beaucoup trop long. On va s'intéresser maintenant à un autre aspect, une manière de lire la Bible qui est celle des dispensations. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, les dispensations? C'est une idée qui, me semble-t-il, a toujours existé, un peu dans l'inconscient des chrétiens qui lisaient la Bible, mais qui a été, on peut dire, formalisée au XIXe siècle, et il faut le dire, beaucoup sous l'impulsion de Darby, hein, qui a été vraiment, on peut dire, le fondateur du dispensationalisme. Mais enfin, ça a été ensuite beaucoup vulgarisé par Scofield, la Bible Scofield, a beaucoup de commentaires dans l'optique dispensationaliste, et puis au XXe siècle, il y a eu Charles Ryrie aussi, qui est un Américain, je crois, qui a beaucoup développé cette manière de lire la Bible aux États-Unis. Ce qui fait que la plupart des chrétiens, d'ailleurs, évangéliques aux États-Unis, sont dispensationalistes. Alors, qu'est-ce que c'est que le dispensationalisme? Il faut déjà expliquer ce que c'est qu'une dispensation. Une dispensation, c'est une ère, une époque, une économie, c'est des synonymes, caractérisée par un certain type de relation entre Dieu et les hommes. Et on distingue dans l'histoire de l'humanité sept grandes époques, avec une huitième qui est entièrement nouvelle. Il s'agit de l'innocence, puis la conscience, puis le gouvernement humain, puis la promesse, puis la loi, puis la grâce, qui est la dispensation actuelle, si vous voulez. puis le royaume, puis une huitième, qu'on pourrait appeler l'état éternel, ou pour ce qui concerne les élus, le paradis. Alors donc, qu'est-ce que c'est que le dispensationalisme ? Eh bien, c'est un mode d'interprétation de la Bible qui estime que chaque passage de la Bible doit être placé dans son contexte et ne s'applique littéralement à nous chrétiens que s'il est confirmé par la doctrine chrétienne contenue dans les actes et les épîtres. Si ce n'est pas le cas, il faut le voir soit sous la forme d'un contraste par rapport à ce qui nous concerne, soit le lire d'une manière figurée, avec une lecture au second degré. De manière très simple, par exemple, ça veut dire que les abstentions alimentaires de la loi ne s'appliquent pas à nous, il faut lire ça au second degré. Voilà, ça c'est une conséquence pratique simple que tout le monde comprend, que tout le monde pressent évidemment, mais qui a été vraiment bien formalisée à partir du moment où on a parlé de dispensationalisme. Alors, je vous donne un aperçu de ces dispensations. Vous voyez, j'ai remis les mêmes repères chronologiques en bas, en rajoutant des événements futurs, et on va essayer de placer ces 8 dispensations. La première, c'est l'innocence. C'est Adam et Ève avant la chute. Là, c'est un premier type de relation entre Dieu et les hommes. Dieu se promène dans le jardin d'Éden, il est là, dans une communion, une simplicité avec l'homme innocent, qui vit dans l'innocence. Voilà, il y a une relation toute naturelle entre le Créateur et la créature. Ça, c'est la première étape. Mais ça ne va pas aller loin. Il va y avoir la chute. Et ensuite, à partir de là, on entre dans une deuxième étape où il y a la notion de conscience. C'est-à-dire que l'homme est pécheur, Dieu est saint, et l'homme doit prendre conscience qu'il a des comptes à rendre à Dieu. Voilà, c'est ça, la conscience. Là-dessus vont se rajouter certaines choses. Alors vous voyez, la conscience, elle va durer longtemps. C'est ça aussi ici qui est un peu difficile à comprendre dans les dispensations, c'est que le début d'une nouvelle dispensation ne signifie pas forcément la fin de la précédente. Il y a des principes qui perdurent, parce que pour nous, ils sont repris dans le Nouveau Testament, donc ils continuent à être valables. C'est le cas de la conscience. Vous voyez, je superpose maintenant un troisième principe qui arrive au temps de Noé. C'est le gouvernement humain. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à Noé, Dieu laisse faire les hommes, avec leur conscience. Mais il voit que ça ne marche pas. Avec la conscience, c'est la catastrophe. Les hommes sont de plus en plus mauvais. Alors il va dire, je vais donner à des hommes l'autorité pour faire régner la justice sur la terre. Voilà. Il va responsabiliser des gens qui auront un rôle politique. Et donc à Noé, Dieu dit qu'il faut venger le sang quand on a tué. Il faut qu'il y ait une justice humaine qui s'exerce pour freiner le mal. Et ça, on peut dire que ça continue, toujours. Mais c'est quelque chose qui a été instauré sous Noé et qui va se continuer pendant très longtemps. Quatrième principe dans les relations entre Dieu et l'homme, c'est la promesse. C'est-à-dire que Dieu, finalement, on peut dire, renonce un peu à attendre la perfection de l'être humain, il va récompenser la foi. Et à partir d'Abraham, Dieu honore la foi. Abraham, il a cru Dieu, il est parti sans savoir où il allait, et Dieu l'a récompensé. Voilà. Dieu promet la bénédiction à celui qui y croit. Cinquième type de relation avec Dieu, on peut dire une sorte de tentative avec le peuple d'Israël, un pacte. Dieu propose une loi à Israël, et si Israël respecte cette loi, eh bien Dieu les bénira. Mais ça c'est temporaire. Mais c'est quand même dans l'Ancien Testament, donc ça nous concerne, dans notre étude de ce soir. Et puis, comme ce principe échoue, eh bien Dieu va justifier par la grâce. Dieu pardonne entièrement à celui qui croit en Jésus. Donc cette fois-ci c'est la grâce qui règne. Et on peut dire que nous sommes aujourd'hui, depuis que Jésus est venu, jusqu'à sa deuxième venue d'ailleurs, nous sommes dans l'ère de la grâce, la dispensation de la grâce. Puis, c'est le royaume, Jésus a dit qu'il allait revenir, l'Apocalypse annonce qu'il va régner sur la terre pendant 1000 ans, et donc là il y aura un autre de choses nouveaux sur terre, un autre type de relation entre Dieu et les hommes, qui ne nous concernera pas directement, puisque nous ne serons partis au ciel, mais là c'est l'aspect prophétique ici, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Et puis ensuite, c'est le jugement dernier, à la fin de cette septième dispensation. Et donc là, nous entrons dans un ordre de choses nouveau, une sorte de huitième jour. Alors, huitième jour, c'est toujours l'idée de sept. Ça a été l'achèvement de quelque chose. Et le huitième annonce un ordre de choses complètement nouveau. Donc, le bonheur éternel pour les élus. Et puis aussi, les temps de feu pour ceux qui sont perdus. Bon, là, vous avez une vision panoramique des dispensations. Maintenant, on va revenir un peu sur celle de l'Ancien Testament. Pour voir en quoi est-ce qu'elle nous concerne encore. Et puis, dans quelle mesure? Alors, commençons par l'innocence. L'homme heureux près de Dieu, entre Adam et Ève et Dieu. Dieu leur donne la fécondité, il leur donne la suprématie sur la création, et il est béni. L'homme a simplement le devoir de garder le jardin, de ne pas manger d'un certain arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu est là, au milieu du jardin, et puis c'est la chute. Donc, on peut dire que cet état de choses prend fin, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden, donc on peut dire que cette dispensation a pris fin, elle ne nous concerne plus. Elle est annulée par la chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme n'est pas innocent, il n'est pas bon par nature, contrairement à ce que disait Rousseau. Ça veut dire aussi que la vie est dure, nous le savons bien, il faut gagner son pain à la sueur de son front. Ça veut dire aussi qu'on met des habits, hein, parce que Adam et Ève dans le jardin d'Éden étaient nus, et bien nous qui ne sommes plus des gens innocents, on s'habille. Hein. Et puis voilà, il faut qui peut lutter contre des conditions d'existence parfois difficiles. Donc c'est la fin de l'innocence. La conscience. L'homme est responsable devant Dieu. Il faut se rappeler que l'arbre dont l'homme a mangé, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc à partir de ce moment-là, il a acquis cette capacité de discerner entre le bien et le mal, hein, qu'est la conscience. Donc c'est quelque chose que l'homme a acquis, de manière assez définitive, on peut dire. Je passe rapidement, je vais directement dans la dernière case, vous voyez, c'est confirmé par le Nouveau Testament, hein, que nous avons une conscience. Romains 2 nous dit que quand les païens, qui n'ont pas de loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, leur raisonnement les accuse ou les défend. Et donc, c'est quelque chose qui continue, l'homme a toujours une conscience. Et donc, chacun doit prendre conscience qu'il devra rendre compte à Dieu. Ça, c'est très important. Si un être humain ne réalise pas ça, il ne va jamais avoir à sentir le besoin d'être sauvé. À partir du moment où on comprend qu'il y a un créateur et qu'il faut rendre des comptes à ce créateur, alors là, tout change. Qui n'a rien à se reprocher, hein? Chacun a une conscience qui lui montre qu'il est pécheur. Voilà. Parce que chaque être humain sincère sait qu'il est pécheur. Et donc, cette dispensation, on peut dire, prendra fin seulement au jugement dernier. Là, tout sera mis à nu, en lumière, et ensuite, ce sera la fin du péché, on peut dire. Ensuite, il y a le gouvernement humain. Donc, le principe est le suivant. Dieu confie l'autorité à des politiques, des personnalités judiciaires qui sont là pour promouvoir le bien. Bien, ça, c'est quelque chose qui n'a pas pris fin. C'est confirmé par le Nouveau Testament en Romains 13. Hein, je reprends toujours des versets dans le Nouveau Testament pour voir si ça nous concerne aujourd'hui. Nous dit, chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu, je cite Français courant. Hein. Et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Donc c'est quelque chose qui perdure pour nous chrétiens. Il faut se soumettre aux autorités. Dieu reconnaît la justice humaine. Peut-être qu'on peut voir aussi, dans cet aspect-là, l'abstention du sang qui date de Noé, donc qui a été reprise dans Acte 15. Hein, c'est toujours dans l'idée du pacte avec Noé, respect de la vie, qui va même jusqu'au respect de la vie des animaux, qui fait qu'on ne mange pas le sang. Bon, mais ça, c'est pas quelque chose de très important. Ensuite, la promesse. À partir d'Abraham, Dieu récompense la foi. Et Romains 4, verset 16, nous dit que c'est toujours vrai. Il nous dit, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis. Et c'est vraiment un don gratuit. Alors la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre père, à tous. Voilà, les chrétiens sont aussi enfants d'Abraham, c'est-à-dire ceux qui croient. Ce qui veut dire que ben, c'est la foi qui sauve, et puis que aussi d'une manière générale, la foi vaut mieux que l'intelligence. Dans notre relation avec Dieu, tout doit être basé sur la foi. Il faut venir comme un petit enfant. Et enfin, la loi. Alors la loi, donc, c'est un contrat entre Dieu et Israël, je l'ai dit. Donc on peut dire que ceci a pris fin, puisque Romains 10, verset 4, nous dit que Christ est la fin de la loi. Sous la loi de Moïse, il fallait respecter la loi de Dieu pour être sauvé, pour espérer être sauvé. Pour nous chrétiens, c'est complètement différent. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, et ensuite nous faisons les bonnes œuvres, mais pour plaire à Dieu, simplement. Et donc nous marchons pas dans le désir d'obéir à une loi rigide, nous marchons par l'esprit, voilà, une force intérieure qui va nous donner la capacité de faire le bien. Ça veut dire aussi que toutes ces prescriptions de l'Ancien Testament, sacrifice d'animaux, châtiment, guerre sainte aussi, hein, abstention alimentaire, tout ceci doit être relu d'une manière figurée, pour nous chrétiens. Vous voyez que si on n'est pas dispensationaliste, c'est un peu compliqué de lire l'Ancien Testament, parce que là, on va devoir appliquer des choses qui, pour nous, à la lecture du Nouveau Testament, ont pris fin. Alors j'arrive maintenant à une dernière partie, qui me paraît bien sûr centrale, c'est de voir que dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a beaucoup de passages qui annoncent la venue du Seigneur Jésus. Est-ce que c'est ça une idée des exégètes comme ça, originale? Est-ce qu'on a le droit de lire l'Ancien Testament en y cherchant des choses qui annoncent le Seigneur Jésus? Ben oui, bien sûr, parce que le Seigneur Jésus lui-même l'a fait. Il faut se rappeler que dans son ministère, il s'est comparé au serpent d'airain, il s'est comparé à David. C'est comparé à Jonas. Donc le Seigneur a lui-même pratiqué cette lecture de l'Ancien Testament. et puis avec les disciples d'Emmaüs, hein, vous rappelez, après sa résurrection. Commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le concernent. Ça devait être une réunion d'études drôlement intéressante, hein, on aurait aimé y être. Mais voilà, on ne sait pas ce qui s'est dit, sauf que là, leurs yeux ont été ouverts, ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'exceptionnel. Et puis les apôtres l'ont fait aussi. D'ailleurs, ça a été un peu leur argument de choc vis-à-vis des Juifs pour annoncer l'Évangile. C'est de dire, ce Jésus que vous avez crucifié, c'était celui qu'avaient annoncé les prophètes. Et donc Paul en particulier, hein, qui était vraiment versé dans la loi de Moïse, chaque fois qu'il a évangélisé dans une ville, il entrait dans la synagogue, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Donc, c'est quelque chose que les apôtres ont pratiqué. Et puis ensuite, on a toute l'Épître aux Hébreux, qui est une relecture des ordonnances de l'Ancien Testament, dans un sens chrétien, avec un sens figuré qui illustre la doctrine chrétienne. Alors, je vais prendre quelques exemples rapides, hein. Bon, ils sont extrêmement connus, mais pour les deux premiers, j'y tiens, je vous dirai pourquoi après. Abraham et Isaac, c'est frappant cette histoire. Donc le père qui va offrir son fils, son unique, ça évoque des choses pour nous. Donc ton fils, ton unique, ils marchaient les deux ensemble, la communion entre le père et le fils, donc on voit ici le Dieu le père et Dieu le fils. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Donc voilà, le père offre son fils. Et puis, à la dernière minute, il y a un bélier qui se trouve là, et donc il va offrir plutôt le bélier à la place du fils. Alors vous voyez, ça c'est typique des images de l'Ancien Testament, elles sont jamais complètes, sinon ce ne serait plus des images, ce serait des réalités. Elles se superposent aussi. Là, cette fois-ci, à la fin du récit, c'est le bélier qui devient une image du Seigneur Jésus, parce qu'il est offert à la place d'eux. Le Seigneur a été offert à notre place. Vous voyez, des images tout incomplètes, tout imparfaites, qui quelquefois se succèdent, se superposent, mais qui évoquent d'une manière ou d'une autre le Seigneur Jésus. La vie de Joseph aussi, c'est vraiment frappant. Vous voyez, j'ai mis ici côte à côte des versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils. Et puis Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ensuite, il l'envoie vers ses frères, je t'enverrai vers eux. Dieu a envoyé son fils unique dans le monde. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent. Et Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Ensuite, le maître de Joseph le met dans la prison, où les prisonniers du roi étaient enfermés. Bon, ça, il me semble que c'est une image de la mort, hein, cette prison. Voilà. Une prison, c'est on ne sort pas comme on veut, et la mort aussi, c'est quelque chose dont on ne sort pas comme on veut, mais le Seigneur aussi a dû entrer dans la mort. Et au moment où il est dans cette prison, Joseph va rencontrer, vous connaissez l'histoire, le panetier et les chansons, comme le Seigneur s'est retrouvé entre deux brigands, eux aussi destinés à la mort. Vous voyez l'analogie qu'on peut faire. Et l'un des deux prisonniers va être sauvé, l'autre va être pendu. Hein, le panetier va être pendu, les chansons vont être libérées. Tout comme un des deux brigands va se convertir et l'autre va rester dans ses péchés. Donc c'est intéressant toutes ces analogies. Alors ensuite on sort Joseph de la fosse parce qu'il a interprété le rêve du Pharaon. Comme Jésus a été sorti de la mort, a été ressuscité. Il a ressuscité d'entre les morts, l'a fait asseoir à sa droite. Comme Joseph se retrouve à la droite du Pharaon. Il l'établit sur tout le pays et il l'appelle Tsafnat Paneach. Et Tsafnat Paneach, ça veut dire sauveur du monde. C'est quand même frappant tout ça. Comme dit Pierre dans les Actes, Jésus, c'est lui que Dieu a exalté comme prince et comme sauveur. Vous voyez vraiment l'analogie entre les deux. Et ensuite, le fait que Joseph pardonne à ses frères en disant, bien sûr, vous m'avez vendu, mais Dieu l'a permis parce que c'était pour votre bien. De la même manière, Pierre dira, vous avez renié le Saint juste, mais je sais que vous l'avez fait par ignorance. Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit. En ta descendance se seront bénis toutes les peuples de la terre. Ça s'est retourné dans le sens du bien de tous. Et alors, vous voyez ces grandes analogies. Alors, si j'ai cité volontairement Isaac et Joseph, c'est parce que ce qui me frappe, c'est que malgré les nombreuses allusions à l'Ancien Testament qu'on a dans le Nouveau, les apôtres, semble-t-il, n'ont jamais exploité ces histoires. Enfin, on n'a pas de traces en tout cas. Alors, on ne voit pas dans le Nouveau Testament des allusions à Isaac, Abraham et Isaac, père et fils, le père offrant le fils, ça n'a pas été repris par les apôtres. Et Joseph aussi, l'histoire de Joseph n'a pas été reprise par les apôtres. Ça montre d'autant plus l'authenticité des prédictions de l'Ancien Testament. C'est que même les apôtres ne les ont pas vues, à la limite, entre guillemets, ils ont peut-être vu, ça ne nous est pas raconté, mais ils n'ont pas eu besoin d'aller les chercher toutes pour convaincre. Vous voyez, il y a une richesse de l'Ancien Testament qui est inépuisable, et qui rend tout ça crédible. Bon, alors après, beaucoup plus classique, l'agneau pascal. un agneau sans défaut, comme Jésus était sans péché. On prend son sang, on mange sa chair, le sang, le corps du Christ, hein, qu'on voit dans la scène. Et puis, grâce à ce sacrifice, Dieu passe par-dessus. Voilà, il pardonne par le sacrifice de l'agneau sans défaut. Évidemment, ça c'est abondamment repris dans le Nouveau Testament. Le serpent d'airain aussi, frappant. Celui qui regarde le serpent d'airain et qui avait été mordu par un serpent est guéri. Comme nous, un simple regard de foi vers le Seigneur Jésus crucifié nous sauve. On pense au brigand sur la croix, hein. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour regarder au Seigneur, mais il l'a fait, il a été sauvé. Et puis alors des prophéties. Là, jusqu'à présent, je me suis basé que sur des récits, des allégories, et aussi des prophéties. Dès le début de la Genèse, Dieu dit au serpent qu'il y aura inimitié entre ta semence et sa semence, c'est-à-dire la semence de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui briseras le talon. On voit déjà une préfiguration de la victoire de Christ sur Satan. Alors avec le talon brisé, c'est-à-dire les souffrances de la croix, mais en même temps une victoire définitive sur le diable. Et ensuite ça continue, beaucoup de prophéties bien connues. Donc la naissance du Messie à Bethléem. Effectivement Jésus est né à Bethléem. Un Messie qui a des origines d'éternité. C'est quand même assez étrange pour les Juifs de lire ça. Eh bien, ça prend tout son sens quand Jésus est venu, fils de Dieu, Dieu lui-même, le Verbe, hein, fait chair. Bon, donc ça prend du sens maintenant pour nous. Et puis, tous ces psaumes messianiques, hein, alors c'est un peu petit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc le roi qui est en même temps le fils de Dieu. Moi j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte, je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel, il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Au fils, rendez votre hommage. Donc, le Messie est en même temps le Fils de Dieu. Très étrange pour des Juifs. Pour nous, bien sûr, ça prend tout son sens aujourd'hui. Et puis, le psaume 22, la description des souffrances de David, en l'occurrence, mais en même temps du Messie. Mes os se déjoignent. Ma langue est attachée à mon palais. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils partagent entre eux mes vêtements. Donc, toutes des choses qui se sont réalisées à la croix. Mes os se déjoignent, on comprend, hein, un crucifié. Bien sûr, il est écartelé sur la croix. Ma langue est attachée à mon palais, à la soif. Et puis ils ont percé mes mains et mes pieds. 900 ans avant la crucifixion, voilà comment David décrit les souffrances du Messie. Il a abattu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas la moitié de mes jours. Alors c'est intéressant parce qu'on lit ailleurs que les jours de l'homme vont à 70 ans, hein, puisqu'il a un peu plus de vigueur, à 80 ans à la rigueur. Alors c'est 70 ans la norme. Moitié de mes jours, ça fait 35 ans. Eh bien, c'est à peu près l'âge auquel le Seigneur Jésus a été crucifié. Ne m'enlève pas la moitié de mes jours. Esaïe, bien sûr. Alors, un Messie qui à la fois restaure Israël, mais aussi qui est le salut de Dieu jusqu'au bout de la terre. Voilà. Un Messie qui a une vocation universelle. Et ça aussi, le Seigneur l'a réalisé. Bon, il a été transpercé à cause de nos crimes, encore l'idée de la crucifixion. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été dans le riche dans sa mort, tout ceci s'est réalisé. Le Seigneur a été mis dans le tombeau d'un homme riche. Etc. Il a intercédé pour les coupables. Le Seigneur, sur la foi, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà, tout ça prend du sens pour nous maintenant, qui connaissons le Seigneur Jésus. Et puis alors, cette prophétie, carrément mathématique, je dirais, qu'on trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 9, il nous est dit ceci, « Depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et la place et le fossé seront rebâtis en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. » Donc il dit que, entre le moment où on a décrété de rebâtir Jérusalem et la mort du Messie, alors le Messie meurt, donc déjà, on apprend ici, va mourir, et la mort du Messie, il y a 69 semaines. On sait quand a été donné ce décret de rebâtir Jérusalem. C'est le roi Artaxerxès qui l'a décrété. Ça nous est mentionné dans le livre de Néhémie, Néhémie 2, je crois. C'est quelque chose qui est daté. Alors, si on prend 69 semaines à partir de ce moment-là, bon, on ne voit rien, ni dans l'histoire relatée par les Hébreux, ni dans l'histoire profane, qui puisse montrer un Messie qui aurait été retranché, qui aurait été mis à mort. Ça, on ne trouve pas. Donc, on a une autre idée. On va se dire, un jour égale un an, à ce moment-là. Et donc, en prenant des années de 360 jours, ce qui est le cas dans, toujours dans les prophéties. Au lieu de faire avec des semaines de jours, on va faire des semaines d'années, donc des paquets de 7 ans. Ça va pas être 69 semaines, ça va être 69 paquets de 7 ans. Donc, l'ordre de rebâtir Jérusalem, c'est Artaxerxès Ier qui l'a donné, c'est en Néhémie 2, verset 8. en moins 446, c'est quelque chose qui est daté, qu'on peut dater. Vous prenez 69 semaines, mais des semaines d'année. Donc ça fait 7 fois 69, 7 années fois 69, fois 360 jours. Vous arrivez à 476 ans. Ça fait un petit décalage par rapport à si vous prenez des années de 365 jours. 476 ans. Donc vous partez de 446 avant Jésus-Christ. On est dans le négatif. Vous ajoutez 476, donc vous dépassez le positif, et vous arrivez en l'an 30. Voilà, c'est quand même assez surprenant. Hein, ça, c'est effectivement la date à laquelle on pense que le Seigneur Jésus a été crucifié. Vous voyez ? Voilà, peut-être là, une prédiction de la date de la crucifixion du Messie. Donc à peu près 500 ans à l'avance. Alors j'en arrive à ma conclusion. Bon, c'est vrai qu'on est toujours surpris. On se demande comment les Juifs qui lisent l'Ancien Testament arrivent à ne pas croire en Jésus comme un Messie. Hein, c'est quand même quelque chose qui nous frappe énormément. Bon, c'est sûr peut-être qu'ils espéraient un Messie plus glorieux, plus qui allait délivrer Israël, bon, Messie politique. Mais il y a quand même une force de conviction dans tous ces récits de l'Ancien Testament qui amène à penser que Jésus est vraiment le Messie et le Fils de Dieu. On peut dire qu'il y a un quadruple témoignage en faveur de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est développé dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Donc, il y a les Écritures. Sans qu'on a vu des exemples, première chose des Écritures, elles rendent le témoignage du Seigneur Jésus. Ensuite, il y a Jean-Baptiste aussi, qui était quand même un prophète reconnu des Juifs, qui a dit que voilà, il vient, hein, celui qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier la sandale. Il a annoncé la venue de ce Messie. Il y a également les miracles que Jésus a accomplis. Ça, c'est quand même quelque chose aussi qui devrait amener à croire ce qu'il a fait. Et puis, il y a le Père lui-même. C'est-à-dire cette approbation que Dieu a donnée sur son Fils, hein, quand sa voix s'est faite entendre au moment du baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. » Ou alors, sur la montagne de la Transfiguration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc voilà autant de raisons pour nous de croire que Jésus est vraiment le Messie, et donc qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Et donc je laisse la conclusion finale à ce verset de l'Épître aux Hébreux, qui résume bien la situation. Voilà notre lecture de l'Ancien Testament. On peut dire, Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises, et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qu'il reste l'emblissement de sa gloire et l'empreinte de son être, qui soutient toutes choses par la parole de sa puissance, et qui, après avoir fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux.
Jusqu'à nous.